Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. En Libye, la révolution de 2011 a accouché du chaos. Le pays est désormais tiraillé entre ses élites politiques antagonistes, ses groupes armés, ses milices révolutionnaires et ses tribus locales. On tentera d'y voir un peu plus clair avec le chercheur Ali Ben Saad, auteur d'un dossier dans la revue trimestrielle Moyen-Orient qui sort en kiosque. Méfions-nous des fausses informations sur les réseaux sociaux. Les observateurs de France 24 en ont relevé plusieurs tout au long de l'année écoulée. On se souvient, par exemple, de l'annonce erronée de la mort du chef de l'organisation État islamique. À suivre également la revue de presse « Regard croisé sur Israël et le monde arabe » avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchantier au Caire. Il y sera largement question de l'attentat meurtrier de mercredi à Paris contre la rédaction du journal Charlie Hebdo.
Orient Hebdo sur RFI.
Lorsqu'on parle des révolutions arabes, on cite généralement la Tunisie et l'Égypte, parfois le Yémen, Bahreïn ou la Syrie, beaucoup plus rarement la Libye. Il faut dire que la répression militaire de la contestation a été très rapide, favorisant la création d'une résistance armée hétéroclite avant l'intervention extérieure et les bombardements, notamment de l'aviation française soutenue par les États-Unis et la chute du dictateur. On a alors comparé la Libye à l'Irak, alors que la configuration rappelle plutôt la Syrie. Ali Ben Saad, bonjour.
Bonjour.
Maître de conférence à l'université d'Aix-Marseille, chercheur associé à l'IREMAM, l'Institut de recherche et d'études du monde arabe et musulman, spécialiste entre autres des espaces et sociétés du Maghreb et du Sahara. Alors les informations en provenance de Libye sont à la fois rares et parcellaires. En tout cas, de l'extérieur, la situation politique paraît comme coupée en deux, avec deux pouvoirs, deux parlements, deux premiers ministres et donc deux gouvernements, l'un à Tripoli, l'autre à Tobrouk. Est-ce à dire, Ali Ben Saad, que l'on revient à la situation d'avant l'indépendance en 1951 ?
Alors oui et non, pas tout à fait, parce que même si la question régionale se pose effectivement et qu'elle se joue surtout et toujours, comme vous l'indiquiez, entre Cyrénaïque et Tripolitaine, la division actuelle transcende ce clivage régional. Je vais vous donner un petit exemple. Le général Haftar, qui est le bras armé du Parlement de Tobrouk, n'est pas en odeur de sainteté avec les fédéralistes de la Cyrénaïque et pourtant ils sont un peu côte à côte. Et en fait, la dualité de pouvoir à laquelle vous faisiez allusion, elle recouvre la réalité de lutte, de reclassement et de pouvoir qui oppose d'un côté nouvelle élite issue de la révolution que représentent par exemple emblématiquement les révolutionnaires de Misrata mais pas seulement, et de l'autre un peu ces élites qui se sont reconverties à la révolution, pas toujours, et qui sont issues des notabilités déjà établies à l'image de certaines fractions tribales de Benghazi ou surtout des Zintan qui ont en fait connu une certaine proximité avec le pouvoir de Kadhafi avant de se retourner contre lui à la faveur de la révolution. Ces localités-là, si on prend que les localités emblématiques, Misrata d'un côté et de Zintan, celles qui incarnent chacun des deux camps qui s'affrontent, elles incarnent en fait des histoires politiques et c'est des soubassements sociétaux très divergents. Et elles sont emblématiques en fait des différenciations qui traversent la société libyenne et qui aujourd'hui s'expriment dans la conflictualité politique. Je vous donne deux ou trois éléments. La région de Zintan est une région où l'imaginaire tribal il est resté vivace. D'ailleurs, quand on dit Zintan, ça désigne à la fois la ville mais aussi la tribu. Et ces gens-là, avant de se démarquer de Kadhafi à la fin de son règne et de se retourner contre lui, ils avaient été, bon gré, mal gré, un élément du jeu tribal de ce dernier. Ils ont fourni des élites à ce pouvoir. Alors qu'au contraire, Misrata, d'ailleurs qui n'est pas une tribu comme on la désigne incorrectement, c'est une vieille cité urbaine avec des traditions commerçantes, industrieuses, etc. Elle a été le lieu de la première opposition à Kadhafi. Elle a fourni beaucoup de cadres, etc. Mais qui, dès 1975, avait réclamé une normalisation et une rationalisation du régime. Et ils vont le payer par une durable répression. Et quasiment cette ville n'aura plus d'élite jusqu'à la révolution, qui là va faire émerger dans la lutte une nouvelle élite Misrati. Alors cette élite, elle a forgé elle-même son ascension, son nouveau statut. Elle s'est investie corps et bien dans la lutte. Et elle ne peut pas renoncer actuellement à la puissance militaire de ses milices, parce que c'est ça qui garantit son rôle dans les futures institutions de la nouvelle Libye.
Alors parlons maintenant des milices islamistes. Alors l'une d'entre elles a annoncé ce jeudi, avant-hier, avoir exécuté deux journalistes tunisiens qui étaient retenus depuis le mois de septembre dernier. Dans quel camp sont-elles et observe-t-on chez elles une allégeance particulière, alors soit à Al-Qaïda, soit à l'organisation État islamique ?
On peut déjà les différencier entre islamistes tels que les frères musulmans et les djihadistes, dont une partie, effectivement, à l'Est, a fait allégeance à Daesh. Et je crois que le cas de la Libye, il éclaire un peu l'ambiguïté, la difficulté des islamistes de faire leur aggiornamento. En Libye, les islamistes n'ont pas la même pression sociale qu'en Tunisie ou en Égypte. Alors, en fait, les islamistes, les frères musulmans, sont devenus une partie importante du camp révolutionnaire, mais en fait, ils manquaient jusque-là d'influence et de légitimité parce que, en général, les islamistes, ils ont fait leur pas politique à l'étranger. En Libye, ils se sont associés plutôt au fils de Kadhafi et donc n'ont pas été concernés, si je peux dire, par la loi d'exclusion politique, etc. Et c'est parce que ils se sont coulés dans le radicalisme des révolutionnaires de Misrata, parce qu'ils l'ont exacerbé, qu'ils se sont mis, si je peux dire, politiquement en scène. Maintenant, les islamistes refusent de se démarquer. C'est le problème en Libye, contrairement à la Tunisie, où il y a eu la pression sociale, si bien qu'ils ont été jusqu'à défendre Ansar Sharia contre la décision de l'ONU du 19 novembre qui les a classés comme terroristes. Et c'est vrai que la Libye nous interpelle sur la réalité de la possibilité des islamistes de se différencier réellement des conceptions totalitaires et violentes des djihadistes.
Ali Ben Saad, alors pour compliquer tout ce tableau politique, il y a aussi d'une part la question des tribus et d'autre part celle des minorités, les berbères qui sont environ 10% et les toubous qui sont eux à peu près 14 à 15%, voilà qui compliquent les choses.
Les berbères, ils sont dans le camp révolutionnaire parce que ils sont radicaux dans leur volonté d'éradiquer l'ancien régime qui les avait violentés, etc. Mais en fait, ils se retrouvent aussi aux côtés d'islamistes. Pourquoi ? Parce que sur leur terrain, ils sont en concurrence avec les Intanes, les territoires symbriques, et donc ils vont à côté de leurs ennemis, si je peux dire. Les toubous, eux, ils sont dans le camp opposé aux révolutionnaires, parce que au sud, ils s'opposent au Beni Slimane, qui représente ce camp révolutionnaire et qui se prévalent d'une conception ethnique et statutaire à leur égard. Et donc, effectivement, tout cela complique. La Libye se singularise par une profusion d'acteurs locaux, en fait, et dont l'ancrage n'est que local. Et en fait, malgré le fait qu'actuellement on a deux pôles, il ne faut pas que ça fasse illusion, le champ politique libyen est immensément fragmenté en localisme. On a des conseils locaux qui sont un peu partout en Libye. Et cela, ça fait que des rapports de force sont toujours mouvants, instables, etc.
Et comment s'en sortir, alors, Ali Ben Saad ? Quelle solution pour la Libye dans ce chaos ?
Écoutez, moi, je ne veux pas minimiser la gravité de la situation en Libye. Elle est préoccupante. Mais si je peux dire, ce chaos a sa logique, sa rationalité. Il n'est pas si inextricable. Je pourrais même dire qu'on y retrouve tous les ingrédients banals d'une situation post-révolutionnaire telle qu'on les retrouve sous toutes les latitudes.
D'un mot, êtes-vous optimiste pour la suite, pour la Libye ?
Oui, je suis optimiste, d'autant que la normalisation de la situation en Tunisie va pouvoir beaucoup peser. La Tunisie est très discrète, mais elle a beaucoup d'influence à travers ses populations, l'imbrication entre les populations, les politiques, le rôle que pourrait jouer Nahda auprès des islamistes, etc., etc. Je suis très optimiste. Il faut faire entendre raison aux autres alliés des Occidentaux et faire pression sur eux pour qu'ils cessent de jeter de l'huile sur le feu. Il faut que les Occidentaux fassent entendre à ces alliés régionaux-là que leur avenir, leur devenir est dans un apaisement de la situation en Libye, d'autant que c'est le marché de travail le plus important de la région Maghreb, Sahel, etc., et que la stabilité de la Libye concerne celle de tous les États, pas seulement en termes de terrorisme, mais en termes d'activité économique, de gains de travail, etc., et par ricochet sur toute l'Europe. D'accord. Et je crois que c'est aussi important la Libye que la Syrie.
Merci Ali Ben Saad, chercheur à l'Institut d'ethnologie méditerranéenne à l'Université d'Aix-Marseille. Vous avez apporté votre expertise scientifique au dossier que notre partenaire, la revue Moyen-Orient, consacre ce trimestre à la Libye, sous-titre explicite « De la révolution au chaos ». Vous étiez en duplex depuis les studios de Radio France Aix-Marseille, que je remercie ici. Thank you. observateurs de France 24 envoient chaque jour, tout au long de l'année, des informations insolites, amusantes, outrées, politiques, anodines ou révoltées. Bonjour Jamel Belayachi.
Bonjour Eric.
Vous êtes l'un des journalistes qui collecte ces nouvelles des observateurs. Comme chaque mois, vous en avez sélectionné 3 pour Orient Hebdo. Et pour commencer, nous évoquons évidemment l'attentat meurtrier de mercredi au siège du journal Charlie Hebdo à Paris.
Oui, 3 jours après l'attaque sanglante qui a frappé le locaux du journal, les hommages aux 12 victimes continuent d'affluer sur les réseaux sociaux. Des centaines de tweetos ont posté des photos de soutien un peu partout en France. On pouvait voir ce message « Je suis Charlie » affiché dans les gares, sur les immeubles, dans les stations de Vélib, les affiches publicitaires, les autoroutes. Et il y a même une photo d'un nouveau-né qui avait sur son bracelet l'inscription « Je suis Charlie ». On peut encore citer le club de football l'Olympique Lyonnais qui a affiché le message de soutien lors d'une conférence d'avant-match.
Oui, on a vu que la mobilisation à Lyon avait été très forte, notamment sur l'une des places centrales de la ville, la place des Terreaux. Faire grève en prison, c'est risqué, Jamel. Les détenus politiques à la centrale syrienne de Homs l'ont pourtant tenté.
Eh oui, tout au long de la semaine dernière, ils ont tenu des rassemblements dans la cour de la prison. Ils ont entonné des chants patriotiques et brandi des pancartes exigeant leur libération. Pour la plupart, ils ont été arrêtés lors des premières manifestations contre le régime syrien en mars 2011. Certains sont maintenus derrière les barreaux alors qu'ils ont déjà purgé leur peine. D'autres sont toujours en attente de jugement depuis plus de 3 ans. Grâce à leur téléphone portable, ces détenus ont donc pu filmer et relayer leur action sur Internet et dans les médias. Le but, c'est d'attirer l'attention des responsables politiques qui semblent avoir la tête ailleurs alors que le pays est livré à la guerre civile.
En tout cas, c'est tout le travail des observateurs. Enfin, il faut se méfier, Jamel, des images amateurs qui circulent sur Internet. Sinon, eh bien, on peut rapidement être victime d'un tox.
Parlons d'abord de ce cliché qui a été relayé sur les médias en ligne. Sur une photo de mauvaise qualité, un combattant de l'organisation de l'État islamique apparaît avec un tatouage « United States Army » sur son bras. Une image qui prouve, selon certains adeptes de la théorie du complot, que l'État islamique a été en fait créé de toutes pièces par les États-Unis. Sauf qu'en fait, il s'est avéré que cette photo est un photomontage. Sur la photo originale publiée par l'agence Reuters que nous avons trouvée, bien évidemment, aucune trace de tatouage sur le bras de ce combattant. Au cours de l'opération Bordure Protectrice menée par l'armée israélienne sur la bande de Gaza en juillet dernier, la manipulation des images battait son plein. Des photos montrant notamment des soldats israéliens en train de s'appliquer de fausses blessures ont été largement relayées sur les réseaux sociaux. Ces photos ont en fait été sorties de leur contexte car elles ont été récupérées d'un article portant sur le rôle des femmes dans l'armée publié 2 ans auparavant.
Merci Jamel Belayachi, journaliste aux Observateurs de France 24, dont je rappelle le lien observers.france24.com.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bucianti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Michel.
Bonjour.
Bonjour Alexandre.
Bonjour.
En tête des articles et des éditoriaux de la presse israélienne, Michel Paul, l'attaque contre Charlie Hebdo, grand mouvement de solidarité en Israël.
Oui, l'ensemble de la presse israélienne fait la même une, la tour Eiffel dans l'obscurité en signe de deuil. Obscurité dans la ville des Lumières, titre Yediot Aharonot. Dans Mariv, c'est l'extinction des feux. Alors pour Haaretz, la France se trouve maintenant en pointe du combat pour l'avenir de l'Europe. Une lutte contre la montée du terrorisme d'un côté, mais aussi contre la montée du racisme à l'égard des immigrants. L'éditorialiste du quotidien le souligne, l'attaque contre la rédaction de Charlie Hebdo était un attentat stratégique. Elle visait un des biens les plus nécessaires, non pas seulement pour la République française, mais aussi pour le monde libre tout entier. La presse israélienne donne la parole à ses caricaturistes. Un bon caricaturiste n'a pas de dieu, explique Daniela London, tandis que Michel Kishka parle de ses amis qui ont perdu la vie dans l'attaque de mercredi. Les journaux soulignent l'aspect universel de la lutte contre le terrorisme, n'hésitent pas à faire un amalgame avec le problème palestinien, et plusieurs estiment qu'un des résultats de cet attentat, eh bien, ce que des Juifs français vont venir en plus grand nombre s'installer en Israël.
Alors cette tuerie, Alexandre Bucianti, cette tuerie dans la salle de rédaction de Charlie Hebdo fait également la une de très nombreux journaux arabes.
Oui, et des journaux qui ont pris fait et cause pour les journalistes de Charlie Hebdo. Beaucoup publient le slogan « Je suis Charlie » ou sa traduction en arabe « Anna Charlie ». Beaucoup de caricatures aussi. Dans l'Égyptien Al-Tahrir, on voit un djihadiste qui est prêt à décapiter un homme à genoux, mais dont la tête est remplacée par un crayon à dessin. Et puis dans Al-Sharq al-Awsat, on voit le bras d'un terroriste en train de dessiner une cible sur le dos d'un homme qui, lui, représente le monde musulman. Et puis il y a aussi ce dessin de crayon dont la gomme est en train d'effacer le terroriste ou celui d'un cagoulé armé et qui est cerné par les plumes et les crayons de dessin.
On note tout de même quelques notes discordantes, Alexandre.
Oui, tout à fait. Il y a le journal égyptien Al-Watan qui publie par exemple un dessin où l'on voit d'un côté le mot « offense », une référence aux caricatures de Mahomet, et de l'autre le mot « violence », donc une forme de justification de l'attentat contre Charlie Hebdo. Et puis le même Al-Watan avait titré la veille « L'Occident frappé par le terrorisme qui l'a nourri et engraissé ».
En tout cas, Alexandre, la presse arabe désigne clairement le responsable, c'est l'organisation État islamique.
Oui, Daesh, comme on l'appelle dans la presse arabe. Pour les journaux, il n'y a aucune hésitation. Daesh a soit commandité l'attentat contre Charlie Hebdo, soit l'a inspiré par ses décapitations barbares. Et donc, plusieurs journaux titrent « Daesh a salué les auteurs de la boucherie de Charlie Hebdo comme des héros et des lions de l'islam ». Et puis, plusieurs éditorialistes reviennent sur ces milliers de djihadistes occidentaux, et notamment français, qui ont rejoint les rangs de la formation terroriste. Et un analyste égyptien se pose même la question « Pourquoi les Français qui ont rejoint Daesh sont-ils trois fois plus nombreux que les Égyptiens ?»
Michel Paul, vos journaux s'intéressent également aux élections, élections qui auront lieu en Israël d'ici un peu plus de deux mois.
La campagne électorale israélienne bat son plein et on assiste, Eric, à un changement du paysage politique israélien. Nombreuses sont les vieilles figures de la classe politique qui annoncent leur départ. On peut dire avec certitude, comme le font les quotidiens israéliens, que la nouvelle Knesset qui sera élue le 17 mars prochain sera complètement différente, avec des visages tout à fait nouveaux. Mais les sondages publiés par la presse du week-end ne laissent pas présager de grands changements au niveau de la composition du Parlement. C'est toujours, semble-t-il, Benjamin Netanyahou qui sera le seul à être en mesure de mettre sur pied une coalition gouvernementale.
Et puis, il est beaucoup question, Michel, du ministre des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman.
Oui, c'est un des éléments intéressants de cette campagne. Donc, Israël Beteinu, c'est le parti de Lieberman. Il s'agit effectivement donc d'un parti qui est l'objet depuis ces dernières semaines d'une vaste enquête pour corruption. Plusieurs des responsables de ce parti sont entendus dans cette affaire par la police, à l'exception de Lieberman lui-même. Mais malgré tout, il joue son avenir politique. Et selon les journaux, Avigdor Lieberman aurait rencontré récemment plusieurs personnalités du monde arabe pour mettre au point en commun un programme de règlement régional du conflit.
Alexandre, les journaux arabes profitent de l'attentat de Charlie Hebdo à Paris mercredi pour s'interroger sur les causes profondes de l'extrémisme islamiste.
Oui, et certains éditorialistes estiment que le printemps arabe et la chute ou l'affaiblissement des régimes autoritaires ou sectaires, comme en Irak et en Syrie, ont permis à la mouvance extrémiste d'agir en toute liberté. D'autres pensent que l'absence de toute solution de la question palestinienne est la cause de l'extrémisme, mais de plus en plus de penseurs estiment que le mal est à chercher au sein même du discours religieux sclérosé des grandes institutions islamiques comme Al-Azhar, un discours qui, selon eux, doit être débarrassé de ce qu'ils appellent les scories fondamentalistes.
Allez, en guise de conclusion, Michel, quelle est votre photo du jour ?
Bien, ce sont les photos de diverses régions du pays atteintes par la tempête qui sévit depuis plusieurs jours. Il y a aussi des flocons sur Jérusalem, des flocons de neige, mais rien à voir avec ce qui s'était passé l'an passé.
En tout cas, préparez vos skis. Merci Michel, merci Alexandre. Et n'oubliez pas, nous sommes tous Charlie. François Porcheron a réalisé cette émission que vous pouvez retrouver sur notre site www.rfi.fr ainsi que sur notre page Facebook. Bonne semaine et à samedi prochain sur RFI.